In 1991, the Chief Inspector of Social Affairs, Michel Lucas, was asked to write a report about the situation of the blood transfusion and the HIV virus in 1985. This was considered to be the crucial date for this scandal. Today, at his old age, Michel Lucas still remembers he was also asked not to contact the French journalist Anne-Marie Castoret, to which he did not listen to and worked closely with her. This led to a report containing confidential documents, like the account made from a meeting in May 1985 in the presence of the advisor to the Prime Minister, where they stated,
"The American test has presented a considerable advantage. It's half the price of the French product. So a decision is necessary if we want to preserve the future of the French product. The idea which has been advanced is that of signing an agreement between Diagnostics Pasteur and the National Blood Transfusion Centre. A decision is needed quickly because the National Health Laboratory cannot hold Abbott's very long registration file beyond May the 13th, 1985, which is a deadline given to the company, after which the risk of litigation exists."
In February 1999, for the first time in France, three ministers had to appear before the justice charged of manslaughter. Laurent Fabius was the Prime Minister at the time, and from his government, the Health Minister and the Minister of Social Affairs were charged. The result? Only Edmond Hervé was considered responsible, with a suspended sentence. The French journalist, Elisabeth Fleury, remembers being present at the trial and what the reaction of the three ministers was.
Je sais que Laurent Fabius, sur lequel tous les projecteurs étaient braqués, était extrêmement concentré, prenait pas ça du tout à la légère et avait une défense remarquable en la personne de Michel Zaoui. En gros, sa défense, qui est une défense plausible et assez classique finalement, c'est de dire qu'il était entouré de conseillers, il était entouré de chefs de cabinet, directeurs de cabinet et de conseillers divers, qui était là pour l'alerter éventuellement, et que dès qu'il a été alerté, il a fait ce qu'il était en devoir de faire. Alors, Georgina Dufoy et Edmond Hervé, qui étaient dans son gouvernement, qui avait un certain nombre de responsabilités, étaient précisément mis en cause pour peut-être n'avoir pas alerté assez vite Laurent Fabius.
Cette responsabilité, elle est très directement sur mes épaules aujourd'hui. Donc je me sens tout à fait responsable.
Dans toutes les étapes.
Pour autant, je ne me sens pas coupable.
Il y a une responsabilité qui a été retenue par M. Edmond Hervé, responsabilité qu'il a toujours contestée, responsabilité, je dirais, de principe, parce qu'il n'a été condamné à aucune peine, il a été dispensé de peine, c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, mais il y a eu cette responsabilité, quelque chose d'assez étrange. J'ai profondément le sentiment, des années après, que finalement on n'a pas eu le courage, que les hommes politiques, juges d'un moment, n'ont pas eu le courage d'aller vers une décision de mise en cause totale des trois anciens ministres, qu'ils ont fait un choix, qui est un choix peut-être plus politique que judiciaire, qui veut dire qu'il fallait bien qu'on retienne pour l'opinion publique au moins la responsabilité de principe de l'un d'entre eux, car sinon on ne comprend pas pourquoi il y aurait cette dispense de peine, ça n'a pas beaucoup de sens sur le plan judiciaire.
This letter of May 1985, directed to the Health Minister, Edmond Hervé, informed him of the urgent need to take a decision in regards to the tainted products. And through the letter, he was asked to help in the decisions that had to be made. He did not react in time.
This last decision, in addition to its economic impact, among others, brings the problem of its effectiveness when reaching the expiry date, and that the possibility of substitution by foreign heated products would have to take place.
Marie-Odile Bertella-Geoffroy is the judge who instructed the non-ministerial aspect of the case of the tainted blood. But the Investigating Chamber of Paris, in a judgment of 2002, and the Supreme Court, in a judgment of 2003, decided that there were no grounds for prosecution. She also indicted several directors of blood transfusion centres were still holding during the years of 84-85 blood collections in prisons, causing several contaminations of the AIDS virus.
Alors effectivement, j'ai travaillé 4 ans moi, en reprenant le dossier qui était resté chez le juge d'instruction qui avait renvoyé M. Garetta et 3 autres devant le tribunal correctionnel pour un délit de tromperie aggravé. Donc j'avais transmis tous mes dossiers. Il y en avait un dossier gros, c'est un tome, il y en avait 130 à la Cour de justice de la République concernant le procès des ministres. C'est à partir de ces dossiers-là qu'ont été jugés les 3 ministres. Et en ce qui concerne mon dossier, il a tout simplement été archivé. Comme je dis, c'est un torchon.
But the prosecutor, in the end, proved, quote, end quote, his case that Abbott test did not exist in the real of the possibilities to cover the market and protect the blood recipients from tainted blood. And that was so surprising to all of those who had been part of the tainted blood scandal. I, in particular, but others, that I went to the Abbott group to check this information that came out of nowhere. And there was no way that it could be cross-checked. It was the word of the prosecutor and a final word. And since then, it has never been debated in any court of law, in any documentary, in any book. But I remember calling the Abbott group, the industry, and asking them, what is this story? You had told us you could take the market by 30%. And they say you had nothing. Say, oh, it's a pack of lie. Oh, so you have documents. Well, we had documents, says the director of Pasteur France. But they burned last week in our offices. Ah bon. Therefore, Fabius was washed of any guilt.
Vers minuit, 1h, toutes les lumières sont éteintes. C'est impressionnant, quoi. Ça fait dans le noir. Le calme revient un petit peu. Et puis quelquefois, mais il y a quand même des coups de cafard, quand même, d'en être réduite à cette situation pour faire valoir simplement son dû, ni plus ni moins. Et c'est vrai que ces moments-là, j'ai une espèce de rage, de haine en me disant... Les mêmes salauds qui m'ont filé dans cette situation, ben, ils dorment dans un lit confortable.
Mon père est mort seul, caché. Et là, vous pourriez croire qu'on nous a donné une explication. Humaine de tout ça. Pas du tout. Un simple interne a pris ma mère dans un couloir, devant des tas de gens, avec cette simple phrase « Votre mari est mort du sida, vous êtes vous-même sûrement contaminé, faites-vous faire un test, au revoir. » Ma mère ne s'est même pas vue proposer un test, elle ne s'est même pas vue proposer un verre d'eau, elle ne s'est pas vue proposer quelques minutes dans un bureau. Non, c'était trop. Il fallait vider la place. Donc, quand vous voyez ça, avec des éléments au plus haut niveau de l'État, qui ont été révélés par des perquisitions, et puis ces témoignages au niveau du terrain, le plus simple, on sent bien qu'il y a une politique d'ensemble d'omerta. Et donc, il y a des grandes raisons, des raisons importantes, pour que dans un pays développé, se prétendant humaniste, on agisse comme ça.
When the scandal also burst at a global level, no one thought of coincidence, but rather in the economic reasons that had pushed French public actors to take wrong decisions. Why otherwise would a private laboratory like the Mérieux Institute export contaminated anti-hemophiliac products to countries where the laboratory was established since the 1950s, when Charles Mérieux decided to send his best technicians abroad to run away from the recession the Institute was experiencing in France?
Mérieux, qui a lui-même des stocks de produits qui ont été fabriqués avec du sang qui n'a pas été testé et qui n'a mis en œuvre aucune technique particulière de chauffage, va continuer jusqu'au début de l'année 1986 à exporter des produits potentiellement contaminants et dont on saura par la suite qu'ils l'étaient réellement. Ces produits vont être exportés dans différentes directions, un certain nombre de pays du Maghreb, dont la Tunisie, mais encore des pays d'Afrique subsaharienne ou des pays d'Amérique du Sud. C'est ainsi que beaucoup d'hémophiles tunisiens vont être contaminés dans le courant de l'année 1985 ou au début de l'année 1986 par des produits d'origine française et notamment des produits Mérieux.
The contaminations in countries like Tunisia, Iraq or even Libya were published in different media in France, but the exportations of factor 8 contaminated to Iran were never told before. Today, Iranian victims have gathered energy to speak out and make their cases also known in France.
من فاطمه طیبی مادر مسعود نعیمی اولین فرزندی که تو ایران دچار بیماری HIV شد تو سن 7 سالگی من سال 53 ازدواج کردم اولین فرزندم دختر بود بعد از 5 سال خدا یه پسر بهم داد که مسعود بود بعد از 9 ماه متوجه شدیم که بیماری هموفیلیه باید فاکتور 8 بگیره بعد از 6 سال که اولین عمل باید انجام میداد باید ختنش میکردیم فاکتور زیادی باید میگرفت فاکتور زیادی که گرفت بعد از اون عمل بعد مدتی که مریض شد و بیماری HIV گرفته بود ولی بهمون نمیگفتن چند ماهی که بهمون نگفتن و تحت درمان بود بعدن که بهمون گفتن حدوداً شاید 6 ماه بود که میدونستیم مدت زیادی نبود ولی تو همون مدت کم هم خیلی ما زرش کشیدیم خیلی زرش زیادی کشیدیم شاید نتونم با زبون بگم